Père Nicolas, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Nous retrouvons surtout notre nouvel ami, le père Frédéric Faeber. C'est lui qui a bossé. On essaye simplement de recueillir quelques perles dans tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a écrit. Il y a une auditrice qui m'a dit qu'elle avait beaucoup savouré cette quasi-définition de la prière par le père Faeber, confesser avec respect la présence de Dieu. C'est vrai que ça rejoignait des choses qu'on avait dites auparavant. Donc cette attitude de prière et cette action de prière qui fait que nous amons la présence de Dieu, que nous célébrons la présence de Dieu et que nous recevons aussi la présence de Dieu. Nous avions aussi dit qu'il faut beaucoup prier pour nous-mêmes. C'était une des choses que notre auteur a recueilli chez saint Thomas d'Aquin. Mais il y a évidemment le risque d'une prière qui pourrait devenir pratiquement égoïste, comme un peu un institut de beauté spirituelle où on s'occupe de soi et encore de soi et toujours de soi, et on demande plein de choses, même si elles sont justes et belles, pour soi au Seigneur. Alors il y a du coup un équilibre qui est trouvé par le père Frédéric et qui continue en nous disant « Dieu ne nous permet pas de prier seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. » Alors oui, évidemment, on s'y attendait. Et ça va être un très beau développement sur la prière d'intercession. Parce que, de toute manière, la prière pour soi-même est en effet cette prière de confession de la gloire et de la présence de Dieu, cette prière d'adoration, de louange, cette prière très eucharistique. Mais il y a aussi cette dimension de l'intercession dans la prière. Donc Dieu nous permet de prier pour les autres. Alors peut-être que l'expression peut nous sembler un peu étonnante. C'est une permission, une autorisation, c'est une sorte de privilège que le Seigneur nous accorde, que ça rejoint le cheminement spirituel du père Faeber, qui a fréquenté plusieurs groupes chrétiens, et dans certains de ces groupes chrétiens, on enseignait qu'il était interdit de prier pour les autres, que c'était quelque chose qui n'avait pas de sens, que chacun s'occupe de soi et qu'il n'y a pas vraiment de communion des saints, que c'est un peu une invention et qu'en fait la prière est simplement ce rapport très très solitaire entre Dieu et moi, et qu'il n'y a pas dans la volonté de Dieu, dans le cœur de Dieu, ce désir que nous nous mettions au service des autres par la prière. Donc, il y a tout ce cheminement, tout cet itinéraire spirituel et mystique du père Frédéric qui va le conduire finalement à s'émerveiller de cette permission que Dieu nous accorde. Vous pouvez prier les uns pour les autres. Donc je peux prier pour les autres. Et plus, alors là il y a la volonté d'enraciner évidemment dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc le père dit: Dieu nous commande d'une manière très explicite la prière d'intercession. C'est la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, verset 1. Donc c'est saint Paul qui parle avec le « je ». « Je », moi, saint Paul, moi, Paul. Peut-être qu'il ne s'appelait pas saint Paul quand il parlait de lui. « Je désire avant tout que les hommes adressent des supplications, les prières, les intercessions et les actions de grâce. » Grâce à cet enracinement biblique, le père Frédéric peut aller directement dans son développement. Ce privilège inestimable, ce don mystérieux de la prière, nous est donné afin que nous en usions en faveur des autres autant que pour nous-mêmes. Alors, il aborde à nouveau la question, faut-il y avoir davantage pour les autres ou davantage pour soi-même d'une prière d'intercession ? Souvenez encore une fois que saint Thomas d'Aquin développe sa réponse en disant: comme lorsque nous prions pour nous-mêmes, nous sommes sûrs que nous sommes d'accord avec ce que nous demandons, sauf vraiment gros problème de dissociation de la personnalité, eh bien c'est plus fécond de prier pour moi-même, parce que lorsque je prie pour un autre, je ne suis pas certain que l'autre demande en même temps que moi. Voilà le raisonnement de saint Thomas. D'une certaine manière, on reste un petit peu sur le seuil du mystère, et puis on dit, bon ben, en tout cas, il faut prier autant. Voilà. Donc, autant pour nous-mêmes que pour les autres, autant pour les autres que pour nous-mêmes. Que soient les talents naturels que Dieu nous a refusés. C'est une belle approche, hein. Donc on s'interroge sur tous les talents que Dieu n'a pas voulu nous donner. Et bien là, la prière d'intercession, c'est un don qu'il nous a certainement accordé. Tous, sans distinction, jeunes et vieux, riches et pauvres, savants et ignorants, prêtres et laïcs, religieux et séculiers, tous, nous sommes également obligés à la prière d'intercession. Malheur à nous si nous enfouissons notre talent et si nous nous présentons devant Dieu sans avoir fait fructifier ce talent de la prière d'intercession. Il faut que nous regardions notre vie passée et que nous essayons d'évaluer le temps que nous avons consacré jusqu'à aujourd'hui à cette prière d'intercession pour les autres. Et si notre passé est ce qu'il aurait dû être dans ce domaine de la prière d'intercession. Prier sans cesse, c'est un précepte dur, un commandement difficile, et nous ne parviendrons à le remplir qu'avec le temps, l'habitude, l'aide des dons de Dieu et la grâce de Dieu. Cette prière continuelle qui, en partie, prend la forme de la prière d'intercession. Notre projet doit être, à mesure que nous avançons en âge, de prier davantage. Nous rejoignons vraiment les aspects très concrets de la prédication du Père Frédéric. Autant j'avance en âge, autant la quantité de prières dans ma vie doit augmenter. Surtout qu'avec la vie telle qu'elle est aujourd'hui, il y a bien souvent le temps de la fin de l'activité professionnelle, le temps où les enfants sont éduqués, le temps où il y a plus de loisirs dans la vie quotidienne. Eh bien, on voit comment s'applique d'une manière très pertinente la recommandation de notre auteur. À mesure que nous avançons en âge, nous devons prier davantage. Et plus nous prions, nous devons diriger nos intentions vers ce but, intercéder pour les autres. Il y a le temps qui nous est donné pour devenir des intercesseurs, on pourrait presque dire des intercesseurs professionnels, qui ont fini par acquérir un savoir-faire, une compétence dans le domaine de l'intercession, qui ont un peu de temps devant eux, ou beaucoup de temps devant eux, et qui vont pouvoir, alors que lorsque on est un peu plus occupé dans la vie, qui vont pouvoir détailler les personnes, les grandes causes que nous voulons présenter à Dieu et pour lesquelles vraiment nous demandons au Seigneur d'être exaucés. Peut-être que jamais, tant que nous serons sur terre, jamais nous ne réaliserons la puissance de la prière, ni des richesses inépuisables de ce trésor. Nous n'arrivons pas à apprécier cette valeur de la prière d'intercession, car nous ne voyons pas à quel point ce trésor met la gloire de Dieu entre nos mains. Qu'y a-t-il d'impossible à la prière? Quel bien ne ferions-nous pas dans les lieux les plus cachés de la terre? Mais les temps où nous vivons sont contraires à la prière. C'est vrai que de lire des auteurs qui ont écrit en 1850, comme à d'autres époques, mais c'est à la fois loin et pas si loin que ça. Encore une fois, on est déjà dans la société industrielle, on est déjà dans cette société avec un gouvernement démocratique, il y a déjà des voies de communication qui sont importantes. Donc 1850, c'est loin et c'est pas si loin que ça. Ça nous permet de beaucoup relativiser notre expérience quotidienne. Quand on voit le Père Frédéric qui se lamente, il dit « Les temps où nous vivons sont contraires à la prière. L'esprit du siècle repousse la prière. Les habitudes d'aujourd'hui ne se mettent pas d'accord avec la prière. » Alors que faire dans un monde que nous jugeons, alors peut-être à tort ou à raison, Dieu seul peut juger une époque en fait, même si nous avons des indices quand même. Que faire face à une époque, face à une ambiance sociale, face peut-être à une culture que nous jugeons défavorable à la prière? La réponse, c'est la foi. La foi. Il faut seulement un peu de foi et de foi dans la prière. Et si nous avions cette foi en Dieu, en l'amour de Dieu, en la puissance de Dieu, en la bonté de Dieu, et la foi en la prière d'intercession qui permet à Dieu de déverser toutes les grâces et toutes les bénédictions qu'il a prévues de donner à la création, si nous avions cette foi, Jésus verrait ses intérêts et la gloire de Dieu s'étendre sur la face de la terre. Ce serait comme une conquête bienfaisante. Les intérêts de Jésus se répandraient partout dans le monde. Alors, la communion de ceux qui sont sauvés grossirait de jour en jour, jusqu'à ce que le bon pasteur s'écroule, d'une certaine manière, sous le poids des fruits de sa passion. Si seulement il y avait la foi et la foi en la prière. Il faut demander, parmi les grâces que nous pouvons demander pour nous-mêmes, cette foi en la puissance de la prière. C'est quelque chose d'absolument central pour toute notre vie chrétienne. Il faut cette prière d'intercession qui est là. Peut-être ne sommes-nous pas capables de prêcher, d'écrire des livres, de partir comme des missionnaires jusqu'à l'autre bout du monde, de donner tout en aumône pour soutenir ceux qui vont prêcher, ceux qui vont enseigner, ceux qui vont évangéliser. Peut-être que nous n'en sommes pas capables et pas en état. Peut-être le bien que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu et la conversion des personnes se réduit-il à peu de choses. Mais la prière d'intercession est à la portée de tout le monde. Voilà. Il reprend cette idée que prier ne demande ni énergie, ni savoir, ni condition particulière. Prier, c'est simplement élever son âme vers Dieu. Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, en dehors de nous-mêmes, d'élever notre âme vers Dieu? Ni le lieu, ni le temps n'imposent de bornes, de limites à la prière d'intercession. Notre ignorance ne saurait la rendre impossible. Et même la superstition, qui peut toujours se mêler, alors il utilise ce mot-là, c'est un petit peu fort, mais après tout, prenons-le pour nous, c'est ça aussi... La prédication, c'est d'utiliser parfois des mots plus forts que ceux qu'on aurait pu choisir pour que ça puisse nous rencontrer avec puissance. Donc, la superstition ne peut pas faire taire la prière. Même s'il y avait un mélange un peu de superstition, eh bien, la prière d'intercession devrait continuer à se déployer. Il ne faut pas se laisser impressionner par nos propres limites dans notre manière de prier. Et le péché ne peut pas limiter non plus la prière d'intercession. Partout où la grâce peut s'engouffrer, la prière peut exercer son empire. Et tout où la puissance de Dieu peut s'exercer, c'est-à-dire vraiment partout, eh bien, la prière d'intercession peut accomplir son œuvre. Il faut être dans cette conviction de la puissance, l'efficacité, la fécondité de notre prière d'intercession. Nous sommes peut-être les plus faibles, les plus obscurs parmi tous les enfants de l'Église. Cependant, notre intercession peut porter sur tous les maux qui existent sur notre terre une main réparatrice. Nous pouvons apporter le baume de la consolation, le baume de la guérison baume de la réparation divine sur tout ce qui peut se passer de mauvais sur cette terre par notre prière d'intercession. Nous pouvons travailler à cette œuvre de la prière d'intercession sans interruption. Et nos actions les plus quotidiennes vont contribuer à notre intercession en cherchant à les sanctifier. Il nous est donné de faire plus que tous les ambassadeurs, que tous les politiques n'ont jamais fait, sans toutefois abandonner, même pendant une minute, notre devoir d'État. Il suffit d'avoir cette intention, comme nous le disons avec notre manière de nous exprimer, d'offrir ce que nous sommes en train de faire dans une intercession précise pour le bien de la paix, par exemple, ou pour le bien du progrès social. Nous ne saurons jamais, avant le jour du jugement, quand Jésus nous le fera connaître dans la vision de la gloire, nous ne saurons jamais toute la gloire que nous avons procurée à Dieu sans peine, sans frais, presque sans nous en apercevoir. Et nous aurons mérité une récompense infinie et éternelle. Ah, c'est vraiment le côté extrêmement positif et doux du Père Faber, toujours cette idée des voies faciles de l'amour de Dieu. Il dit sans peine, sans frais, presque sans nous en apercevoir, parce que nous avons mélangé notre prière d'intercession à toute notre vie quotidienne, parce qu'on n'a pas bousculé toute notre existence pour se mettre en prière pour telle ou telle intention spéciale. On n'a pas, encore une fois, tout bousculé. On est resté dans notre vie, mais on a chargé notre vie de telle ou telle intention. Eh bien, la parole de consolation du Père Faber, c'est de dire « Nous avons contribué à la gloire de Dieu. Nous avons procuré de la gloire à Dieu et nous avons mérité une récompense infinie et éternelle. » C'est tout sauf une vision sombre de notre vie quotidienne. Nous aurons procuré la gloire de Dieu et en même temps, toujours sans peine, sans frais, d'une manière qu'il appelle facile, nous aurons fait prospérer les intérêts de Jésus. Voilà. Nous revenons à ce grand thème des intérêts du Seigneur Jésus. Est-ce que nous ne sommes pas touchés d'une grande reconnaissance en voyant que le Seigneur Jésus a daigné laisser son ouvrage imparfait afin de laisser à notre amour la joie de l'achever. Alors si tout à l'heure l'enracinement était dans la première à Timothée, le chapitre 2, verset 1, là nous ne sommes pas surpris de déboucher sur la lettre aux Colossiens, le chapitre 1, verset 24, ce verset tellement difficile à traduire que notre texte dit de cette manière-là, il a rempli dans sa chair ce qui manquait aux souffrances du Christ en faveur du corps de notre Seigneur qui est l'Église. Ce qui pouvait manquer aux souffrances du Christ pour son corps ou dans son corps qui est l'Église. En tout cas, cette part qui nous revient, parce que telle est la volonté de Dieu, pour que la rédemption puisse se déployer, puisse porter tous ses fruits. Comment nous sommes touchés de la responsabilité que le Seigneur a voulu et a prévu de nous donner. L'amour du Seigneur Jésus a voulu faire reposer sur nous le soin de l'aider à recueillir les fruits de la moisson. Vous vous souvenez de cette grande sollicitude, les intérêts de Jésus, c'est que sa passion puisse porter tous les fruits que Dieu veut qu'elle porte. Eh bien, c'est sur nos épaules que repose une partie de cette responsabilité, que la passion du Christ porte du fruit. Il faut que nos cœurs soient plus durs que le marbre si nous ne sommes pas touchés par cette bonté, par cette tendresse de Dieu qui nous associe à son œuvre de rédemption. Alors, les exemples. On va trouver deux exemples pour essayer d'incarner cette prière d'intercession qui me semble tous les deux très savoureux. Donc, le Père Faber nous dit « Prenez une des tentations qui vous travaillent vous-même. » Alors, les tentations, il dira dans un autre ouvrage que selon lui, les deux tiers de nos péchés véniels quotidiens, ce sont des péchés de la parole. Voilà. C'est tout gossip, cancaner, faire des potins, des commérages les uns sur les autres. Donc, on peut prendre cet exemple simple d'une tentation qui nous travaille, la tentation de dire du mal de telle ou telle personne. Je sais que parmi les auditeurs, il y a certainement personne qui est torturé par une telle tentation, mais il faut toujours imaginer un peu si on veut trouver des exemples. Donc prenez une tentation qui vous travaille. Elle vous scelle, elle vous entrave, elle est toujours prête à s'attacher à chacune de vos bonnes actions, de vos prières, de vos pénitences, de vos lectures spirituelles. Voilà, ça peut toujours venir tout contaminer. Vous vous fatiguez d'y résister. Et que de fois vous avez le malheur d'y consentir. Combien plus souvent encore vous êtes dans l'inquiétude, dans le malaise, parce que vous ne savez pas si vous y avez vraiment consenti ou non. Alors, dans l'hypothèse que je vous propose, on se demande est-ce que vraiment j'ai dit du mal ? Est-ce que ce n'était pas une parole finalement très bienveillante, très positive ? Est-ce que c'était bien ou mal ? Est-ce que finalement je n'ai pas résisté à la tentation et je me suis laissé piéger. Chaque moment de résistance est un acte surnaturel, une victoire de la grâce, un intérêt de Jésus. Voilà. Un des intérêts de Jésus, c'est la résistance à la tentation, la résistance au péché. De la même manière, chaque douleur que nous vivons parce que nous avons mal fait, parce que nous avons chuté, chaque aspiration que nous lançons vers le ciel, alors que la tentation est en train de nous attaquer, eh bien, est un intérêt de Jésus, et même une victoire de la grâce. Compte maintenant, si vous le pouvez, le nombre infini de personnes qui, sur toute la surface de la terre, luttent sans cesse contre la même tentation que vous. Et peut-être même dans des circonstances beaucoup plus défavorables que vous. Voilà. Pour sortir de l'égoïsme, d'une prière et d'une lutte contre la tentation qui finirait par nous recroqueviller sur nous-mêmes, quand il y a cette volonté d'une prière d'intercession, eh bien, le Père Faber dit, pensez aux autres. Pensez à tous ceux qui sont, à l'instant même où vous êtes tentés, eux aussi tentés. Non seulement penser, mais vous allez bien sûr prier pour eux d'une prière d'intercession. Voyez tous les intérêts du Seigneur Jésus que votre intercession peut servir seulement sous ce point de vue. Et j'ai choisi exprès un exemple d'une aussi légère importance, sauf si vraiment ce sont des paroles très méchantes, très assassines. Eh bien, faites au moins ceci. Intercédez pour ceux qui sont assaillis par les mêmes tentations que vous. Ça a l'air tout bête, mais à l'expérience, c'est vraiment chrétien. C'est vraiment une manière qui ressemble au Seigneur Jésus et à la Vierge Marie d'être dans l'intercession. Bien sûr, il n'y a pas de tentation au sens strict qui est un écho dans la concupiscence, pour utiliser le bon mot, chez le Seigneur Jésus ou chez la Vierge Marie, mais il y a cette sollicitude pour ceux qui sont tentés, et nous, pauvres créatures pécheresses, eh bien, il va y avoir cette possibilité, alors même que nous sommes tentés, de nous décentrer de nous-mêmes pour nous mettre à intercéder pour ceux qui vivent la même tentation. L'intercession peut disposer Dieu à faire échouer 1000 occasions de péché. L'intercession peut remporter ses victoires parce que cela va être une intercession avec beaucoup de pureté d'intention, qui va être vraiment dans une charité, dans un amour désintéressé de soi-même. Notre corps, notre humanité corporelle peut trembler devant des mortifications un petit peu violentes. Elle peut trembler devant le jeûne qu'il faudrait s'imposer. Elle peut trembler devant les mortifications par le froid ou bien par les mortifications par le soleil. Tout est possible. On voit bien les pères du désert, les premiers moines égyptiens qui vivaient ces mortifications-là. Cela se comprend tout à fait. Voilà, on retrouve la douceur du père Faber. C'est-à-dire, il ne dit pas, mais c'est affreux, vous êtes même pas capable de vous mortifier, même pas capable de faire des efforts, des jeûnes. Il dit, cela se conçoit, cela se comprend. Malgré tout, on peut encore aimer Jésus. Ce n'est que la vieille histoire de l'endormissement de Saint-Pierre. L'esprit a une bonne volonté, mais la chair est faible. Alors, comment pouvons-nous aimer Jésus sans intercéder les uns pour les autres? On peut comprendre des réticences très très fortes ou quasi impossibilité pour ces actions de pénitence, de mortification, de renoncement un petit peu costaud, un petit peu rude quand même, ou même très rude ou très forte, très décapante si vous voulez, mais de dire j'ai une répulsion à intercéder, alors là, ça par contre, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre. Une chose doit nous surprendre, la prière étant ce qu'elle est, comment ceux qui ont réellement la foi peuvent-ils cesser de prier? Comment peuvent-ils quitter la prière pour aller à d'autres occupations? C'est là un véritable miracle, pour peu que nous y pensions bien profondément, et c'est même un mystère plus impénétrable que la prière elle-même. Comment cela est-il possible? Mais vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est cette application concrète que le père Faber nous propose. Alors, il y en a une autre qui va nous concerner de très très près, parce que vous allez voir comment on peut transposer très facilement aux émissions de radio, et bien sûr aux émissions de radio sur une radio comme Radio Maria France, ce qu'il va nous dire maintenant sur l'intercession pour le prédicateur. Il y a une grande œuvre à accomplir, et nous l'accomplirons infailliblement et toujours sans peine. Combien peu il y a de prédicateurs qui sont en même temps des hommes qui vivent à la manière des apôtres. Là, c'est un petit coup de patte, alors peut-être à l'égard des prédicateurs catholiques, mais quand on connaît encore une fois l'histoire du père Faber, à l'égard de prédicateurs particulièrement brillants, de mouvements spirituels, de mouvements issus de la réforme, comme il y en avait tellement dans l'Angleterre de l'époque victorienne, celle qui entourait le père Faber. Donc, combien peu de prédicateurs qui sont en même temps des hommes apostoliques? Et pourtant, que peut un sermon où l'onction fait défaut? Alors, le mot onction, il a une vraie valeur parce que il s'enracine dans la première lettre de l'apôtre Saint Jean. L'onction, c'est le terme qu'utilise l'apôtre Saint Jean pour nous parler de cette action du Saint-Esprit, de cette présence du Saint-Esprit qui permet de connaître le mystère de Dieu et de l'annoncer. Cette onction, c'est finalement à peu près le sacrement de la confirmation. Le sacrement de l'onction du Saint-Esprit qui nous transforme très profondément en prophète de la Nouvelle Alliance, le prophète étant indissociablement celui qui arrive à scruter avec le secours du Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et du salut, et qui ensuite, les ayant scrutés, aidé par le Saint-Esprit, arrive à les annoncer, arrive à les prêcher, arrive à les présenter de telle manière qu'on puisse y adhérer. C'est cela l'onction. Donc le mot qui a pu être abîmé dans notre langue française avec les idées de l'onction ecclésiastique, quelque chose qui est un petit peu superficiel, qui est une espèce de posture, l'onction est vraiment cette œuvre du Saint-Esprit dans celui qui doit annoncer la parole du Seigneur. Si le monde doit être amené au pied du Christ, prédication, que faut-il espérer si par nos prières nous obtenons le zèle pour le prédicateur et pour ses paroles une onction qui va entrer profondément dans les cœurs? Que faut-il espérer si par nos intercessions nous n'arrivons pas à donner cela? Donc, si parfois vous trouvez que mission ne vous nourrit pas assez, c'est parce que vous n'avez pas assez prié pour celui qui vous parle. C'est bien ça qu'est en train d'expliquer notre bon père Frédéric. C'est que, comme le disent un certain nombre de pères dominicains, le fruit spirituel de la prédication dépend bien davantage de la prière de ceux qui écoutent que des talents de celui qui est en train de parler. Donc, il faut prier pour les prédicateurs, parce que sans l'intercession pour les prédicateurs, il ne peut pas y avoir de fruit à cette œuvre de l'évangélisation. La bénédiction de Dieu, voilà ce qui rend un sermon fécond. Alors je sais qu'il y a des lecteurs du Père Faber qui ont été fatigués par les exemples de vie des saints, par les anecdotes qu'ils proposent, mais c'est aussi un aspect assez intéressant de sa manière de s'exprimer, parce que ce sont des choses évidemment qui illustrent bien et qu'on retient. Savez-vous l'histoire de ce prédicateur célèbre dont la parole convertissait les hommes par milliers? Il lui fut révélé un jour qu'aucune de ses conversions n'était l'ouvrage de ses talents ou de son éloquence, mais que toutes étaient dues aux prières d'un pauvre frère, donc un frère qui n'est pas prêtre, c'est bien ça que ça veut dire, qui ici sur les marches disait des « Je vous salue Marie » pendant tout le temps du sermon, afin que le sermon soit couronné de succès. Ce n'était pas grâce au talent de celui qui n'est la parole, c'était grâce à un croyant, une croyante, qui était en train d'obtenir de Dieu les fruits pour la parole. Alors l'autre histoire, il a la gentillesse, le père Frédéric, de nous prévenir que c'est une histoire bien étrange. Alors en effet, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de reculer devant l'étrange, parfois devant un petit peu le saugrenu. Il sait, en tant que bon prédicateur, lui, que ça permet de réveiller son auditoire. Donc là, il nous dit, attention, ça va être étrange. Et alors, on voit la patte, après, de l'universitaire, de l'historien, du philosophe, de quelqu'un qui a des exigences scientifiques, parce qu'il dit, je ne garantis pas que cette histoire soit véritable. Voilà. Moi, je ne suis pas dupe, j'ai absolument pas de grande conviction que tout ça soit totalement historique au sens scientifique du terme. Donc, mais je vais citer cette histoire étrange à cause du sage enseignement qu'elle renferme. C'est bien que c'est le principe des légendes du Moyen-Âge, tout le monde savait bien que c'était faux, mais c'était tellement beau et tellement instructif, et ça valait tellement un cours de morale, qu'on racontait la légende, et que on ajoutait des détails pour la rendre encore plus belle. Donc, nous y arrivons. Un certain religieux, qui jouissait d'une grande popularité à cause de ses prédications, était attendu un jour dans un couvent de son ordre, où il n'était jamais venu auparavant. Donc, on ne savait pas à quoi il ressemblait. Dans l'après-midi, il arriva, ou plutôt un malin esprit qui avait pris sa ressemblance arriva à sa place pour voir le mal qu'il pourrait faire. Donc c'est ces histoires du démon qui prend telle ou telle apparence. Or ce jour-là, un des moines devait prêcher un sermon sur l'enfer. mais il se trouva malade et incapable de remplir sa tâche. Programme alléchant, hein, un beau sermon sur l'enfer, 45 minutes ou 1h30 sur l'enfer, très bien. Alors on y a le diable déguisé de prêcher sur ce sujet de l'enfer. Et c'est ce qu'il fit. Et comme cette expérience dans la matière lui donnait beaucoup à penser, il a prononcé un discours admirable. Cependant, à l'arrivée du prédicateur véritable, l'esprit malin fut découvert et obligé de déposer son visage d'emprunt et de dévoiler ses desseins criminels. Entre autres questions qui lui furent adressées, on lui demanda si ce n'était pas contre ses intérêts de prêcher sur l'enfer un sermon aussi effrayant et si propre à inspirer l'horreur du péché. On voit qu'il y a un juge d'instruction qui est là et qui essaye de comprendre. Et le diable répond « Pas du tout, parce que je n'y avais pas mis d'onction, et cela ne pouvait pas faire de mal. » Voilà. Donc cette petite légende qui nous dit que même une prédication aussi experte, aussi travaillée, aussi forte sur l'enfer, ne pouvait pas bouger les convictions des personnes qui l'entendaient parce que, évidemment, il n'y avait pas d'onction. Il n'y avait pas ce secours de l'Esprit-Saint, il n'y avait pas cette charité surnaturelle envers ceux qui écoutent, qui est un don du Saint-Esprit, qui pouvait amener à la conversion. Donc aucun risque, le diable pouvait laisser libre cours à son expertise et à son talent. La prédication n'est qu'un des moyens offerts à l'intercession pour agir sur les âmes. Je le donne ici comme un exemple. Mais un exemple particulièrement fort et encore une fois qui nous touche de près. Cette prière d'intercession, c'est notre manière très concrète de vivre la finale du « Je crois en Dieu » sur la communion des saints. Nous allons petit à petit nous approcher de la Toussaint, et cette fête finalement de la communion des saints. Eh bien, la communion des saints, très concrètement, nous l'exerçons, nous la rendons pratique avec cette prière d'intercession. Intercession pour ceux qui vivent les mêmes tentations que nous, intercession immédiate ou bien préparatoire pour les prédicateurs, mais aussi intercession pour tous, intercession dans tous les domaines. En vertu de cette association mystérieuse et immense de la communion des saints, toute richesse spirituelle appartient en commun à tous les croyants. Et personne n'a le droit d'en réclamer une part pour soi tout seul. Les mérites du Seigneur Jésus, les joies et les douleurs des martyrs de Marie, la patience des martyrs, la persévérance des évêques, la pureté des vierges, tous ces trésors appartiennent à chacun de nous. Nous échangeons, nous faisons circuler nos prières, nous nous communiquons nos joies, nous partageons nos douleurs, nous usons les efforts les uns des autres et nous avons 1000 rapports les uns avec les autres et nous devons savoir les entretenir par la prière d'intercession. Bien, c'est sur cette définition pratique de la communion des saints que nous pouvons laisser reposer le Père Faber pendant une petite semaine, si vous le voulez bien.
Merci beaucoup, Père Nicolas.
Au mois d'octobre, alors, pour le mois du rosaire. On entre ensemble dans le mois du rosaire. Et normalement, lundi prochain, ce sera sur la Vierge Marie, la façon dont le Père Faber nous parle de la prière à la Vierge Marie.
Eh bien, merci beaucoup, Père, et donc à lundi prochain. Très belle semaine à vous.